Donc, en fait, aujourd'hui, on va parler de transition. Mais alors, du coup, ce n'est pas du tout la transition énergétique, ni écologique, ni quoi que ce soit. C'est un mot qui apparaît dans ta fiche de poste. Ouais. Tu es manager de transition, je ne sais pas.
Comment... C'est ça, oui.
Voilà. Et donc, de ce que j'ai compris, c'est plutôt lié à l'idée que tu arrives dans des entreprises dans lesquelles... Il y a une vacance de poste ou une transition de l'organisation, ouais. Et on te demande d'intervenir pendant quelques mois. Voilà. Et ça, c'est ça a été ton métier.
C'est toujours mon gagne-pain. Donc en fait, moi, mon parcours en bref, donc j'ai fait des études en gestion et donc j'ai passé 20 ans en entreprise, en contrôle de gestion, sur site, siège, jusqu'au directeur financier. Et il y a une dizaine d'années, en fait, je ne sais pas si c'était ma crise de la quarantaine, mais voilà, j'ai un peu tout remis en question et j'ai décidé de faire un break et de retourner faire une école photo. Et donc, c'est posé la question une fois que non, j'ai eu...
Ça veut dire que tu avais déjà eu cette velléité de devenir artiste. En fait, j'étais un peu vite. Hein, si vous avez lu la présentation de la séance d'aujourd'hui, Karine, elle a un double métier, comme beaucoup de gens ici. Elle est photographe et un petit peu manager.
Voilà. Et quand je disais retourner, non, c'est de retourner faire des études. D'accord. Et donc, en fait... et j'ai fait donc cette formation aux États-Unis parce que c'était sur un an. Et donc, moi, je voulais un cycle court, puisque faut que je gagne ma vie. Donc, ça ne me bloquait pas trop de temps. Et voilà. Et donc, c'est posé la question après de ce que je faisais. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là, de ne pas rentrer en France et de voir comment je pouvais gagner ma vie en faisant un peu comme du consulting. Et là, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout commerciale dans l'âme, donc j'avais du mal à trouver des missions. J'ai fait un projet qui était super intéressant, mais avec l'Alliance française de New York. En fait, je suis montée une formation sur les différences culturelles, donc il n'y avait rien à voir. Mais comme moi, j'avais bossé pas mal à l'international, donc j'ai fait ça. Et puis, en fait, ma mère étant gravement malade, je suis rentrée en France en 2015. Et là, c'est posé la question de un peu qu'est-ce que je fais. Et j'avais toujours en tête, même si... dès le départ, moi, quand j'ai fait la formation photo, je savais que je ne gagnerais pas ma vie avec ça. C'est-à-dire que je voulais travailler sur des projets, mais que je n'allais pas être photographe commercial ou éditorial, enfin que c'était pas... j'ai pas ce talent-là. Donc je n'allais pas pouvoir gagner ma vie comme ça. Et donc, se poser la question comment j'allais gagner ma vie. Je suis célibataire, donc je dois m'assumer financièrement toute seule. Et c'est là que j'ai entendu parler du management de transition. Et en fait, qui est quelque chose... Alors, quand moi, je travaillais, j'en avais peu entendu parler. Ça s'est développé en France. C'est pas aussi développé en France que ça ne peut l'être en Allemagne, au Royaume-Uni. Mais c'est en gros... Et donc, il y a différents types d'acteurs sur ce marché-là qui vont être... parce que je me demandais comment je trouvais mes missions. Donc, moi, au début, je passais par des cabinets. Donc, il y a des cabinets de management de transition spécialisés. Alors, c'est un grand mot pour dire... C'est un peu de l'intérim de cadre. Hein. Mais donc, management de transition, ça va être... on peut avoir... ce qu'ils appellent en jargon du management relais, c'est-à-dire qu'on va aller remplacer quelqu'un. Donc, il y a... par exemple, là, en ce moment, je remplace une personne qui est en congé maternité. Ça m'est arrivé de faire une mission où le directeur financier avait démissionné. Le temps qu'il recrute quelqu'un, on m'a pris. Il y a des missions, ce qu'on appelle de conduite du changement, où ça va être, ça peut être de réorganiser une organisation.
Ça, c'est des euphémismes pour faire un truc du sale boulot.
Ça peut être, oui, tout à fait. De dire à un moment, par exemple, enfin moi je l'ai pas fait, mais j'avais été contactée Alors, il y avait déjà eu quelqu'un qui avait fait genre un audit et des propositions, mais en gros, c'était de complètement restructurer la fonction finance et donc forcément avec des moins. Mais enfin, moi, ça n'a pas abouti avec moi. Et ce que je mettrais dedans, moi, une mission que j'ai faite, c'était une entreprise qui avait fait pas mal d'acquisitions avec des filiales partout dans le monde. Et sur la fonction trésorerie, on me demandait, moi, d'aller, de les aider à les intégrer. Alors, moi, ma mission à moi était en fait d'aller sur place, de regarder comment ils étaient organisés, avec quelles banques ils fonctionnaient, voir les flux financiers, parce qu'il faut les sécuriser, savoir qui valide, qui envoie les paiements pour éviter des fraudes, et de voir comment on les passait dans les banques corps du groupe, comment on faisait des interfaces avec les systèmes d'information de l'entreprise pour qu'on ait vu sur les flux. Mais, donc moi, j'en suis restée à cette phase de mise en place, qui était de dire comment je connecte en fait voilà, au niveau de la trésor, les banques, tout ça, avec ceux du siège, et comment on a une visibilité sur les flux. Après, l'étape d'après, c'était une grosse boîte qui a des centres de services partagés, effectivement l'étape d'après qui était de dire ben, après ça passe dans un centre de services partagés, donc forcément j'ai pas besoin des mêmes ressources, hein, y a des doublons.
Je crois qu'on n'a pas du tout le niveau de culture nécessaire pour comprendre. Enfin, je ne sais pas, il y en a qui ont étudié la gestion des entreprises.
Je dirais, en fait, dans le management de transition, il y a effectivement donc, une partie de management relais. Il y a de la conduite du changement qui peut être de réorganiser un service, qui peut être, par exemple, de mettre en place ce que font beaucoup d'entreprises, c'est que pour mutualiser, hein, donc avoir moins de personnel, elles vont créer ce qu'on appelle des centres de services partagés. Donc au lieu, par exemple, s'il y a 5 usines en France, au lieu d'avoir un service comptable dans chaque usine, ben, on en fait un à un endroit qui va gérer toutes les factures pour toutes les usines de la France. Donc ça, ça peut être des types de missions qui sont faites. Il peut y avoir de la gestion de projet, par exemple la mission que j'ai en cours, je fais, alors du coup j'ai deux, je remplace quelqu'un qui est en congé maternité, donc je manage l'équipe à sa place, et c'est le courant, et j'ai un projet qui est de la mise en place partout dans le monde de crédit bail pour les équipements, parce que c'est l'entreprise en fait se développe et va monte plein d'autres chaînes de production, donc a besoin d'acheter plein d'équipements. Et en gros, bah, c'est comme moi, si je veux acheter un appart, bah, au lieu de décaisser tout d'un coup, eh ben, je fais un prêt et le crédit bail, c'est l'équivalent d'un prêt pour acheter de l'équipement. Et donc là, c'est de se dire bah, quelles sont les normes à respecter, quel type d'équipement je peux mettre dedans, quels sont les partenaires, les banques avec qui je vais travailler, et après négocier les contrats. Donc ça, c'est de la gestion de projet. Et après, il y a vraiment ce qu'ils appellent des missions là de, je dirais, dans le terme, c'est retournement. Là, c'est une entreprise qui est en crise, qui perd de l'argent. Il faut tout restructurer. Et dans ce marché-là, il y a donc des boîtes qui ne font que ça. Par exemple, le numéro 1 en France qui s'appelle Valtus, ne place que des gens en transition. Généralement, les profils, ça va être beaucoup de gens de finance, ça va être beaucoup de direction opérationnelle en usine, ça va être beaucoup de ressources humaines, et ça peut être de l'informatique, des projets informatiques. C'est un peu les profils. Il peut y avoir comme acteurs des gens qui faisaient du recrutement, donc comme Robert Walters, Robert Half, qui font aussi donc, du management de transition, donc ils placent des gens. Et il peut y avoir maintenant des cabinets de consultants. Donc, par exemple, Mazars, même Deloitte, peut avoir un service management de transition. Et ces gens-là font appel à des gens comme moi qui sont freelance. Et donc, en fonction des missions, ils vont contacter différents candidats. Et après, on passe les entretiens avec l'entreprise et ça marche ou pas. Moi, l'idée de faire ça par rapport à la pratique artistique, c'est que je me disais, Je vais pouvoir faire une mission pendant 6 mois, 8 mois, et puis après prendre 2 mois, 3 mois d'intermission et faire une résidence, bosser sur un projet. Alors, ce que j'essaye de faire, mais en fait, tout ça impliquerait que je peux programmer. Or, je ne peux rien programmer. C'est-à-dire que les missions se font toujours en une semaine. Quand on m'appelle, il faut que je sois disponible la semaine suivante.
Donc, et par ailleurs, ce que tu as commencé à préparer là-haut et qui sera montré vendredi, c'est plutôt une réflexion artistique sur ton travail.
Voilà.
Donc, c'est très différent de distinguer d'un côté ton travail et de l'autre côté une pratique de la photographie qui serait indépendante.
Ce que je disais précédemment, c'est qu'en fait, moi, je séparais complètement les deux. Parce que ces deux mondes, a priori, on peut se dire, ils ont rien à voir. Et que c'est vrai que quand je suis rentrée en France, j'ai jamais caché mon parcours, hein, c'est-à-dire que je disais que j'avais fait un break. Donc la plupart, dans 95% des cas, les entretiens, on me prenait pour une cinglée et on me disait « mais qu'est-ce que c'est votre truc ? Vous n'avez rien fait pendant 4 ans ». J'arrivais en plus, moi je suis rentrée en France, j'avais 45 ans, donc on m'a dit que j'étais senior, donc ça m'a fait un petit choc parce que je me disais, j'ai encore la moitié de ma carrière à faire, quoi, 25 ans à bosser, donc je ne me considérais pas comme ça. Et c'est vrai que j'ai une amie qui m'a dit, oui, effectivement, dans 95% des cas, ça ne se passera pas, les gens ne vont pas comprendre ton parcours et ça ne marchera pas. Mais j'ai quand même eu la chance de pouvoir trouver des missions. Et c'est un peu pareil côté artistique, c'est-à-dire quand je suis dans un milieu, ou quand j'étais à l'école, où j'ai refait un master en formation continue par la suite, c'est vrai que les gens me regardent en me disant d'où elle sort. Donc c'est vrai que j'avais tendance à séparer les deux mondes. Et ce que je ne fais plus, et je remercie la générale parce que ça, de m'avoir permis de donner ce lieu et ce temps, de pouvoir voir comment j'intégrais les deux, parce qu'au final, je suis la même personne. Hein, donc, je devenais un peu schizophrène. Et effectivement, le travail, ce que j'ai fait ici en résidence, j'ai commencé ça il y a un an, de me dire, quand je suis en mission, comment je peux regarder mon travail, je dirais, de subsistance avec un autre regard. Et j'ai commencé en fait à me donner cette routine de dire tous les matins, quand je me rends au travail, il faut que je prenne au moins une photo. Et donc j'ai commencé comme ça, en me disant tous les matins. Et ça m'a fait réaliser que... Parce que moi, pendant 20 ans, quand j'ai bossé, j'étais en mode zombie. Hein. C'était vraiment... j'ai travaillé 12-14 heures par jour, les week-ends, à fond. Donc, et d'avoir cette routine m'a fait réaliser que je remarquais des choses différentes et que du coup, j'ai été aussi plus détendue quand j'arrivais au travail. C'était plus facile de gérer le stress, quand on arrive en mission, on ne connaît pas l'entreprise. Moi, souvent, je ne connais pas le secteur. C'est nouveau pour moi. Hein, j'étais dans l'édition. J'ai fait de l'équipementier automobile. J'ai été dans une fonderie. Des industries que je ne connais pas du tout. Je ne connais pas les gens. Des fois, je ne connais pas l'environnement. J'étais 6 mois à Outreau. Donc, ce n'est pas chez moi. Je ne connais pas la région. Et en fonction des missions et de comment on m'a présenté, je ne suis pas forcément bien accueillie non plus. J'ai eu une mission où, quand je suis arrivée, on m'a mis dans un bâtiment, il n'y avait pratiquement que moi au fond de l'usine. Et on m'a donné un ordinateur dont les touches se décollaient. Et j'ai fait ça pendant 3 semaines. Hein. J'étais au fond, moi, toute seule. Je suis allée voir les gens dans l'usine, ça s'est fait. Hein, donc, mais c'est vrai que se dire là, cette routine que je me suis mise me fait en fait regarder mon travail quotidien de façon différente et d'avoir une espèce de conscience quand je vais au travail et de faire attention à mon milieu, mon quartier, et qui est en fait ce que je présenterai vendredi, a un peu changé ma perception. Et la façon dont j'appréhende voilà, ce travail-là. Et j'ai commencé aussi en début d'année à prendre des notes, c'est-à-dire quand j'arrive au bureau, à essayer de, voilà, de retracer mon trajet et de voir un peu qu'est-ce qui a attiré mon regard. Et c'est à partir de ces matériaux-là que voilà, j'ai fait quelque chose que je présenterai vendredi. Et ce que j'ai fait aussi, j'aurais pu vous faire passer ça avant, pour que vous compreniez peut-être un peu plus ce que je fais. Donc ça, c'est juste un petit medley. J'ai réalisé en fait que depuis le début de l'année, même si je suis en mission, je garde les offres qu'on m'envoie. Et j'ai commencé en fait à faire un petit pairing entre les offres que je peux recevoir et les photos que je prends. Alors c'est très intuitif, c'est un peu ce que m'inspire l'offre. Mais c'était assez ludique, je dirais, à faire voilà, cette combinaison de les offres que je peux recevoir et de prendre dans mon stock de photos là, que j'ai cumulé depuis presque un an et de voir voilà, qu'est-ce que ça m'inspirait. Et quand j'ai fait ce travail-là, j'ai réalisé qu'en fait, en fonction de la mission, je ne prends pas les mêmes photos. C'est-à-dire qu'il y a un an, j'étais à Ivry et je remplaçais un directeur financier. Le temps qu'il recrute quelqu'un, c'était assez tranquille. Il n'y avait pas de pression dans l'entreprise. Il fallait que je fasse le budget. Les gens étaient très sympas. Et les photos que je prends, que j'ai prises, étaient plus, par exemple, c'était assez. J'aime bien aussi l'idée de la routine, du répétitif. Donc je m'arrêtais devant le même arbre parce que je passais par un petit jardin. Et je prenais la photo du même arbre tous les jours. Et sinon, c'était des photos d'Ivry que je ne connais pas et qui a une architecture, enfin, je trouve très intéressante comme ville. Et donc, c'était plus des photos d'architecture. Et là, donc, j'ai démarré cette nouvelle mission fin décembre, et où j'ai deux postes, donc ça se mélange. C'est deux équipes différentes, j'ai des contacts différents. En plus, c'est des postes où je n'avais pas eu forcément moi d'expérience beaucoup avant, donc il faut que j'apprenne aussi sur le tas. Et je me rends compte que les photos que je prends, c'est plus du bordel, de ce qui est jeté dans la rue, les matelas. Enfin, c'est assez étonnant de voir comment aussi moi mon travail quotidien va influencer ce à quoi je vais faire attention et ce que je vais prendre en photo. Et donc l'idée là de cette résidence, c'est de voir comment, c'est quelque chose que j'aimerais poursuivre, c'est dire voilà, comment je peux amener un regard plus d'artiste sur ma mission de transition et comment ça va aussi influencer après comment j'appréhende ces missions et inversement en fait.
J'ai l'impression qu'ici, il n'y a vraiment personne qui connaît bien ce milieu de l'entreprise ou même des cadres. Et donc on a beaucoup de fantasmes sur ce. On imagine un univers feutré où il y a des coups bas, où il y a de la violence, comment on appelle ça, passive, agressive, ouais. Des trucs. Est-ce que.
Alors c'est vrai que moi.
C'est quelque chose. Et puis après, il y a toute la relation avec le reste de l'entreprise. Quand tu as parlé de ton poste au bout d'une usine, etc., ça veut dire que tu vois donc les travailleuses et travailleurs dans l'usine. Quelle est ta relation avec ces autres personnes positionnées en dehors du monde des cadres?
En fait, moi, quand je vais dans une... Enfin, et j'ai toujours fait ça quand je travaillais. Je pense que c'est important de comprendre exactement ce que fait l'organisation, même si, à la limite, j'en aurais pas forcément besoin. Mais moi, j'aime bien aller passer du temps avec les gens sur le terrain et comprendre leurs problématiques, en fait. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et ça, je l'ai mis en pratique il y a très longtemps, je l'avais fait dans mes premiers postes, c'est de réaliser... Alors, c'est très bateau, parce que quand on... C'est ce que vendent tous les consultants RH, hein, qui est de dire qu'il faut écouter le terrain, mais ce qu'on ne fait pas du tout. Par exemple, moi, quand j'étais chez mon première entreprise, c'était chez EDF, et j'avais été dans une centrale. Une centrale nucléaire. Et là, je dirais que la gestion, le contrôle de gestion, c'était pas, enfin, la finance n'était pas la priorité de l'entreprise. Hein. Mais je me disais, bah, tiens, j'ai envie de faire quelque chose. Et donc, j'avais
quelle centrale, par curiosité ?
Bugey.
Là où Macron veut construire deux EPR,
ouais, j'ai
et
vu
là
ça.
Où les Suisses considèrent que c'est trop dangereux.
Et c'est vrai que du coup, j'avais dit, moi, je vais aller organiser des ateliers avec donc moi, j'étais en maintenance, donc avec les chaudronniers, enfin tous les gens de maintenance. Et puis discuter avec eux ce à quoi il faut faire attention, quels sont les indicateurs. Parce que mon boulot, c'est quand même de mettre en place des indicateurs de suivi de la performance. Et donc, j'avais dit, ben voilà, je vais faire des ateliers comme ça avec les gens dans les ateliers. Et donc, tout le monde s'était foutu de ma gueule, enfin, à la direction, hein, en disant, il ne va rien en ressortir. Et en fait, les gens, ils avaient notamment, parce qu'en fait, il y a tout un programme hein, de maintenance, donc il faut faire telle action avant telle autre. Et ils étaient venus avec des suggestions en disant, bah non, en fait, on devrait faire cette opération de maintenance avant celle-là, plutôt que ça.
Mais là, attends, excuse-moi, ça, c'était quelle période de...
Ah, ça, j'étais là-bas en 99.
D'accord. Parce qu'on nous dit que ça a beaucoup changé maintenant chez EDF et dans les centrales, il y a beaucoup de sous-traitance.
Il y avait déjà énormément de sous-traitance.
Avec des conditions de travail, justement, des gens qui dorment dans des camping-cars autour de la centrale.
Ah bah ça existait déjà.
Ça existait déjà ?
Oui. Moi, j'estimais un gros problème, mais pas les autres. Et en fait, c'est pour ça que moi, de tout temps, ils sont arrivés avec des tas d'idées super intéressantes. Et là, la direction s'en est emparée et effectivement est allée le présenter au siège à Paris en disant on a eu cette super initiative alors que littéralement tout le monde se foutait de ma gueule en disant c'est la petite jeune qui débarque et qui va aller parler aux chaudronniers.
Et cet aspect un peu social, entre guillemets, est-ce que ça influe ta pratique artistique ? Est-ce qu'il y a une...
J'ai pas encore fait le lien, mais c'est vrai que quand là, une des missions que j'ai eues à Outreau, c'était une chaudronnerie. Et à un moment, j'ai hésité à aller voir les gens dans l'usine et à voir quel projet artistique j'aurais pu faire avec eux. Mais j'ai pas osé franchir le pas. J'ai pas osé.
Tout à l'heure, tu as dit quand je rentre dans une entreprise, j'aime bien. M'emparer du sujet, mais c'est pas ça que tu as dit, mais
j'aime bien comprendre ce qu'ils font.
Ouais. Et tu as dit, même si je suis pas obligé de le faire,
c'est-à-dire,
si je pourrais m'en passer, tu as dit un truc comme ça, tu peux expliquer ça?
C'est-à-dire que souvent, il y a des financiers qui vont rester dans leur bureau, qui ne vont jamais aller sur le terrain et qui vont, parce que on apprend en finance, quand on fait des études, on apprend des standards, on voit ce que font les autres. Et tu peux mettre des tableaux de bord un peu basiques, par exemple bêta, de dire je vais suivre le chiffre d'affaires, je vais suivre le machin. Mais ce n'est pas forcément ce qui va être adapté à l'organisation à ce moment-là. Par exemple, cette boîte-là, ils avaient complètement reconstruit l'usine, ils avaient changé toutes les lignes de production, mais ils avaient construit que des murs tout neufs, puis ils n'avaient pas changé les machines. Et donc, les machines, elles étaient en panne tout le temps. Donc la problématique là, c'était pas tant, c'était que on avait des machines en panne. Et si tu vas pas sur le terrain discuter vraiment avec les gens, ça remonte ou pas.
Donc, tu veux dire que tu as des protocoles de gestion qui sont complètement décorrélés du
sujet,
quoi.
Tu peux. Moi, je vois dans mes collègues, il y a des profils de gens comme moi, qui est quand même la majorité, qui ont envie de comprendre comment ça se passe. Et puis, il y a des gens qui vont plutôt appliquer des standards qu'on a appris.
Donc, en fait, ton boulot tel que tu le pratiques, il ne pourrait pas être remplacé par une intelligence artificielle qui appliquerait comme ça des...
Alors, une intelligence artificielle pourrait dire, pour faire des études, en disant, voilà, en fonction du secteur de l'industrie, voilà, le tableau de bord standard, c'est ça. On peut faire ça.
Ouais. Mais il y a tout ce qui est l'interaction avec les gens.
Non. Voilà. Et de savoir la vraie problématique du terrain, qu'est-ce qui pèse sur les gens à ce moment-là, non.
Et nous, on a perdu la première partie, donc quand on vous parle d'émission, on ne sait pas du tout ce que vous parlez.
Ah, je disais parce qu'en fait, moi, je fais du, ce qu'on appelle du management de transition. Donc, je vais en fait, c'est entre de l'intérim, du consulting. En fait, voilà, je vais dans une entreprise pour 6 mois, 3 mois et bosser sur un. Alors, soit pour remplacer quelqu'un. Soit parce qu'on m'a donné un projet particulier à faire, en fait. Moi, mon background, à la base, est dans finance d'entreprise, donc contrôle de gestion, donc c'est général, ou trésorerie, enfin, c'est dans ces domaines-là. Après, sur, je dirais, l'ambiance en entreprise, c'est vrai que moi, quand je suis rentrée en France, et je fais le choix de ne pas reprendre un CDI, et j'espère que je vais pouvoir continuer comme ça jusqu'à la retour. Parce qu'effectivement, il y a un aspect politique, je dirais, aux entreprises qui ne convient pas, qui m'a jamais convenu. Et je suis pas. Enfin, dès le départ, moi, je vois chez EDF, j'avais un de mes managers qui m'avait dit que je préférais, il avait mis ça comme ça, un 10 minutes de défoulement à 10 ans de carrière. C'est-à-dire que je disais ce que je pensais. Bon, à l'époque, maintenant, je le fais de façon peut-être plus diplomatique, mais. Et ça s'est vraiment posé et ça a été un vrai choix. Enfin, en tout cas, moi, de tout le temps, à un moment, dire. Et les entreprises dans lesquelles j'étais, j'ai démissionné à chaque fois. Enfin, après, pour des tas de raisons variées. Mais c'est vrai qu'il y a un côté politique qui ne me convient pas. Et puis, c'est vrai qu'il y a une compétition. Hein. Plus on montre... Hein, moi, je l'ai connu. Hein, l'autre entreprise dans laquelle j'ai travaillé, c'était General Electric. Donc, à un moment, on arrive à des postes de directeur financier. Il y en a de moins en moins... Voilà quoi, donc il faut se poser la question de. Après, il y a. Et d'ailleurs, j'ai des amis qui sont toujours dans l'entreprise, les gens qui ont été promus n'étaient pas forcément les gens qui étaient les plus compétitifs hein, non plus, hein, parce que c'est aussi assez malsain et ça peut. C'est aussi des gens qui vont malmener leurs équipes, donc à un moment, c'est pas non plus. Très productif, mais il y a quand même un côté un peu politique.
Mais donc, en moyenne, dans les entreprises que tu as fréquentées, tu considères qu'elles fonctionnaient de manière normale, sans relation toxique entre, par exemple, justement, le management et...
Ah, je trouvais que chez EDF, c'est très toxique.
C'est très toxique.
Moi, j'ai pas du tout aimé EDF. Hein. Déjà, il y a une culture, alors que moi, j'apprécie pas française de grandes écoles.
Je précise juste un truc avec Marina. On a passé tout l'après-midi à interviewer un ingénieur du nucléaire qui nous a raconté exactement ça, en fait. Ouais. Cette espèce de perversion typiquement française.
Et donc, par exemple, moi, je n'ai pas fait une grande école, comme on le répétait tout le temps, que je n'avais pas fait HEC ou Sciences Po. Quand j'étais en centrale, donc à l'époque, c'était beaucoup d'arrêts métiers, les responsables ou des X, et à chaque fois que quelqu'un était promu, il regardait s'ils avaient fait arrêts métiers ou X. Enfin, il y avait une espèce de culture, c'était un point, c'était une telle aberration que tous les 5 ans, ils regardaient tous les gens qui avaient fait les grandes écoles, et si donc certains, donc, que je suppose qu'ils étaient peut-être moins bons, n'avaient pas été promus, eh ben, ils les remettaient à niveau de la moyenne des autres quand même. Mais à moi, on m'expliquait que j'aurais pas de promotion, de bonus, parce que je n'avais pas fait de grandes écoles. Mais bon, ça, c'est un des aspects, moi, qui me plaisait pas. Mais je trouve que même au quotidien, et je sais pas si c'était lié au fait que c'est un peu l'emploi à vie, je trouvais qu'on maltraitait les gens. Et quand j'ai démissionné, j'ai eu un défilé dans mon bureau où tout le monde venait me voir en me disant « Alors, faut que tu leur dises que ça va pas. » Et je leur disais « Mais moi, je pars, quoi. » Moi, tout le temps où j'étais là, j'ai dit ce que je pensais. Mais là, moi, maintenant, c'est fini, quoi. Je vais pas... parce que j'avais évoqué, effectivement, et du management, et des choses comme ça. Alors, forcément, c'est pas bien vu. Moi, on me l'avait dit, hein, une promotion, parce que j'avais osé dire que... fait un commentaire, et donc, voilà, c'était ça, l'EDF. Alors ça a peut-être beaucoup
changé. Pourtant, il s'agit de centrales nucléaires très dangereuses, des outils qui doivent être gérés de manière extrêmement rationnelle, etc. Et là, tu es en train de nous décrire un univers de coups fourrés et de gens qui sont mus par des passions bien irrationnelles.
Alors, je dirais au niveau du management, après, les gens, encore une fois, les gens sur le terrain, Et même, je dirais, les ingénieurs et les chefs de service, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Enfin, je veux dire, et c'est pour ça que ça tient. C'est des gens, ils aiment la technique, ils aiment leur outil. Enfin, moi, je me souviens, j'en avais, ils me disaient, ah, viens, je vais te montrer dans le réacteur, machin. C'est pour ça qu'il me faut que le budget d'autant, quoi. Donc, il y a quand même les gens du terrain qui sont passionnés. Après, je dirais que moi, ce que je n'aimais pas, c'était tout le management, le peer management autour et la façon dont c'était géré. Et que moi, je trouve assez français, c'est-à-dire ce côté de regarder 40 ans après quelle école on a fait. Moi, j'ai travaillé après pour une boîte américaine, alors qu'il y avait d'autres travers, hein, parce qu'il y avait une autre pression. Mais par contre, on ne m'a jamais fait de remarques sur mon parcours. J'ai pu faire changer de fonction et d'industrie, parce que j'étais chez General Electric. Hein, je suis passée de la turbine à gaz au service financier et après au médical, quand même. Et on m'a toujours dit, bah écoute, si ça se passe bien avec les équipes avec qui tu travailles, t'es pas plus bête qu'une autre, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Donc j'arrivais, je prenais des postes où je ne connaissais rien. Dans une boîte française, je ne pense pas que j'aurais eu cette opportunité. Enfin, chez EDF, j'aurais pas eu cette opportunité.
Tu nous as pas dit si tu as fait une grande école de gestion ?
Non, moi j'ai fait une fac.
Oh,
là, hein.
Oh là là.
Et du coup, la pratique artistique, elle est arrivée comment ? À quel moment cette...
Elle est arrivée... en fait, moi, je me suis toujours intéressée à la photo. Alors, je pense parce que mon père faisait beaucoup de photos. Donc, j'ai des tas d'archives de photos de mon père, qui est décédé quand j'avais 16 ans. Donc, peut-être que ça m'a un peu... c'est un espèce de lien... avec lui, donc j'ai toujours été intéressée par la photo. Et c'est vrai que dans les derniers postes, quand je suis partie aux États-Unis avec General Electric, je m'y plaisais beaucoup. Je voulais pas rentrer, mais la crise de 2008. Donc aux États-Unis, on arrive le matin, le soir, on n'a plus de boulot. Hein, donc moi, j'ai pas été virée, mais comme j'ai été expat, en gros, on m'a donné un choix et j'ai dit, bon, je rentre en France. Donc j'ai mal, et là, à ce moment-là, j'ai très mal vécu le retour en France. Je me suis très très mal, j'arrivais pas à me réadapter. Et j'avais un poste difficile, enfin, dans un business qui allait pas bien, donc avec énormément de pression. Et je trouvais, j'anticipais que on s'était pas forcément adapté. Donc là, c'était du médical. Et autant, par exemple, aux États-Unis, en Europe du Nord, les coupes ont été très très rapides. C'est-à-dire que le NHS, par exemple, en Angleterre, ils ont commencé à réduire tout de suite. Mais c'était pas encore le cas dans toute l'Europe et notamment en France. Et je trouvais qu'on ne prenait pas forcément les bonnes décisions et qu'on allait gentiment vers un plan de licenciement, un truc comme ça. Et que moi, j'estimais, même si je n'étais pas un super poste, hein, qu'on aurait pu faire autrement. Enfin, je sentais ça venir. J'étais à l'époque dans un poste où donc je bossais 12 heures par jour, les week-ends, et mon boss était américain, et il m'appelait tous les jours, pratiquement à 9 heures du soir, pour me dire que mon équipe était nulle et qu'on était juste des broquignoles. Bon, sachant que, et me dire que les Américains étaient mieux, et moi je lui ai quand même rappelé un jour que moi je couvrais toute l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, donc 90 pays, hein, et que les Américains ils couvraient les États-Unis, donc c'était un petit peu plus facile que moi. Donc j'avais fait une carte d'ailleurs de tout ce que... Il n'avait pas du tout apprécié. J'ai pas eu de bonus cette année-là. Donc j'étais à un moment où... Et là, je me suis dit, faut que je prenne du recul. Donc j'ai pris des cours du soir de photo. Et puis je connaissais en fait l'école où je suis allée, l'International Center of Photography, parce qu'ils ont aussi un musée de photo, où j'allais quand j'étais aux US. Et donc j'avais vu qu'ils avaient ces programmes. Et un jour, j'étais retournée à New York et vraiment, hein, ça m'est venu, je me suis dit, c'est là que je veux être. J'ai vu quelqu'un rentrer dans l'école, parce que le musée était en face, moi j'étais allée voir le musée. Et j'ai dit, c'est là que je veux être. Et donc c'était en novembre. Et j'ai commencé à parler en janvier de mon projet. Donc là, j'ai demandé un congé sabbatique. Et donc, j'ai fait mon application, tout ça. Et en août, je suis partie. C'était un peu... Enfin, c'était un mélange. C'était un peu, pour moi, quand même un mode survie. Hein. Et aussi, alors, pour revenir à la photo et mon père est mort à 47 ans. Donc moi, j'arrivais à 42. Et je l'avais toujours vu beaucoup travailler. Et je sais pas, enfin, c'est de la psychologie à deux balles, hein, mais je me suis dit, j'arrive à peu près à cet âge-là et qu'est-ce qui va se passer, quoi. Il y a quelque chose qu'il faut arrêter quelque chose, enfin, voilà. Et j'étais plus, je me disais, enfin, moi je viens d'une famille. Mes parents n'ont pas fait d'études, je suis dans les premières générations qui ont fait des études. Je dirais que la réussite sociale pendant longtemps était très importante pour moi. On avait un peu discuté. Donc ça a été un moteur et c'est vrai qu'arrivé là à 40 ans, je me suis dit mais en fait non, c'est pas ce qui me définit, c'est pas ce qui est important et j'ai envie d'autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'école. Maintenant, après, c'est trouvé quand j'ai eu fini qu'il fallait bien que je gagne ma vie. Et donc c'est là que s'est posée la question en disant, je ne suis pas assez bonne techniquement en photo pour faire de l'éditorial, du commercial qui fait qu'on peut en vivre. J'ai 20 ans d'expérience avant, qu'est-ce que je fais? Et c'est comme ça que je suis arrivée au management de transition, donc à faire des missions et qui me permet de continuer... la photo.
J'ai une question un peu bizarre. Est-ce que tu as un intérêt technique pour la photographie, donc pour les appareils?
Non. Ce qui m'intéressait, c'était la chambre noire. J'ai fait beaucoup le côté des développements, que ce soit chambre noire, couleur au noir et blanc. Parce qu'à l'école, on avait des super labos. Donc ça, j'y ai passé... des semaines entières. Ça m'intéresse. Et les différents processus, en fait, mais plus où il y a de la...
La chimie.
De la manipulation, ouais. Je dirais même, où moi, je manipule et je vois... je vois le processus. Enfin, il y a quelque chose que je fais avec mes mains. Mais l'appareil en lui-même ne m'intéresse pas.
Mais là, les petits formats, parce que c'est pas des grands...
C'est des tirages de lecture. Mmh. En fait, ça fait plusieurs années où j'ai fait ça. Alors d'abord parce que c'est pas cher. Et en fait, c'est un format qui me plaît bien. Je suis pas... Après, ça dépend des projets, je conçois, mais le côté, je fais des photos 2 mètres sur 3, c'est pas trop mon truc. Et c'est pas non plus... ça sert pas le propos de ce projet-là... Après, j'ai fait d'autres expos, j'ai jamais des choses très très grandes. Après, voilà, en fonction du projet, des photos, je peux... Mais là, c'est quelque chose qui se manipule, c'est facile de faire de l'édit. J'aime bien ce format-là.
Mais du coup, les photos qu'on voit, c'est des photos que tu as prises avec quel type d'appareil?
Avec mon téléphone.
Ton téléphone, d'accord.
Sont où les photos?
C'est l'atelier qui est au-dessus.
Elle prépare une présentation vendredi. Je ne sais pas si tu feras une petite visite. Peut-être qu'il y a des gens qui voudraient voir.
Oui, si vous voulez, on peut.
Oui, je serai là vendredi.
C'est pas interdit d'aller voir.
Oui, on peut aller voir. Il y a encore un peu de bordel, mais oui.
Est-ce qu'il y a des questions
Moi, j'ai des questions, parce que sur le positionnement, parce que j'ai pensé à Julien Prévieux.
Oui, c'est fantastique.
J'ai aussi pensé à Hans Acker, et notamment la pièce qu'il a faite pour la Fondation Cartier, sur la Fondation Cartier, en rappelant le passé nazi de la boîte Cartier, quoi. Mais à un moment, il revend cette pièce à Cartier, quoi. Et du coup...
Elle a voulu là-bas, justement. La Fondation Cartier a voulu l'acheter, mais elle a refusé.
Bon, non mais c'était là-dessus. Après, t'en as un petit peu parlé là dans ce que tu racontes, quoi. T'as tout un parcours cabossé en fait où tu pars des boîtes au fur et à mesure. En même temps, tu continues d'en vivre. Enfin, il y a une sorte de... Alors, je me suis posé la question pourquoi tu vas pas travailler dans des coopératives ou d'autres formes de... Enfin, c'est où l'endroit du plaisir, mais peut-être masochiste, ou bien c'est quoi l'endroit de transformation politique que tu peux ou pas faire, des endroits où tu vas?
Alors, peut-être que je m'y suis mal prise. Peut-être que, et je dois dire, je suis un peu feignante, je vais toujours au plus facile hein, aussi. Mais j'ai contacté des ONG en proposant mes services, et même à des moments où j'étais sans emploi, donc bénévolement, on ne m'a jamais répondu. J'ai contacté aussi, il y avait des postes dans des institutions culturelles, des musées, je n'ai jamais été contactée. En fait, c'est vrai que moi j'ai un profil plutôt de grandes entreprises, hein, les 20 ans que j'ai passés. Et notamment, mais j'avais essayé aussi aux États-Unis et j'avais été confrontée un peu au même regard qui était de dire non, mais vous venez du privé, de la grosse boîte, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, vous n'êtes pas adapté, c'est pas la même culture, vous n'êtes pas adapté. Et donc j'ai envoyé une petite centaine quand même hein, de CV à des ONG, des trucs, je n'ai jamais été contactée. Après, j'ai pas non plus cherché à travers le réseau à contacter des gens directement, des choses comme ça. Donc, je suis allée effectivement au plus facile, qui est dire bon bah voilà, j'ai cette expérience internationale, machin, je passe par des cabinets, on me place, donc je trouve des missions, je continue. Après, enfin, je trouve un intérêt aux missions dans le sens où bah, j'apprends une industrie que je connais pas. Enfin, moi, j'ai été ravie d'être à Outreau. Hein. J'ai passé 6 mois. J'ai adoré la région, j'ai trouvé les gens super sympas, enfin, j'ai appris des tas de choses. Donc j'apprends des choses sur des industries que je ne connais pas. Je rencontre à chaque fois des gens différents et je dirais que moi j'amène un regard, par exemple là, je manage une équipe et donc là je leur ai annoncé il y a quelques semaines, donc que la personne, leur boss allait rentrer en septembre, et ils m'ont dit ah, mais on aura appris plein de choses avec toi. Parce que moi j'ai donné quelques cours en école de commerce, donc la transmission me plaît. Donc par exemple, moi j'ai passé beaucoup de temps à leur expliquer un peu les concepts, c'est-à-dire qu'ils faisaient des choses très mécaniquement, et donc j'ai passé du temps à leur expliquer. Les concepts plus généraux de trésorerie. Enfin, en gros, je faisais des réunions d'équipe et je leur donne des cours. Bon, bah, ça a été, ils sont que 4, hein, mais je me dis, bon, bah, j'ai peut-être eu un petit impact là où ils ont une autre vision après mon passage. Mais c'est vrai que, et quelquefois, j'y reviens en me disant, est-ce que j'essaye pas aller plutôt dans des organisations avec du sens, enfin voilà. Mais les fois où j'ai essayé, enfin, après c'était un peu, voilà, j'envoie un CV, mais je n'ai jamais été contactée.
Bah, c'est très complexe, quoi. Je trouve qu'il y a une sorte d'ambivalence, quoi. Et moi, j'ai l'impression de ressentir un plaisir dans ton travail, quoi, dans le type de travail que tu fais. En même temps, voilà, je vois les offres. Alors, je ne sais pas si c'est là dans le livret que tu as passé, si c'est toutes les offres auxquelles tu as répondu.
Non, ça c'est c'est les offres auxquelles j'ai pas répondu.
Ouais, tu vois, il y en a une, par exemple, j'ai posé la question, quoi. Celle où tu es spécialiste en fusion acquisition.
C'est vrai que moi, j'essaye. Après, honnêtement, j'ai eu là sur les dernières années, j'ai eu des périodes 18 mois, presque 18 mois sans travailler. Donc à la fin, j'ai déjà été au RSA. J'ai un peu de mal. Donc je prends aussi un peu à ces moments-là, hein, je prends ce qu'on me propose. Mais c'est vrai que, par exemple, ce qu'on appelle retournement, tout ça, c'est pas des choses qui m'intéressent. Moi, ce que j'aime, c'est mettre en place des choses. Donc, si on me dit, bah voilà, quand j'étais dans la fonderie, on disait, voilà, il y avait déjà une organisation, mais il fallait remettre à plat un peu le contrôle de gestion, comment on regardait les coûts de revient, donc voir avec justement les gens sur le terrain comment on mettait tout ça à jour. Ça m'intéresse de faire ces choses-là. C'est vrai que de remplacer quelqu'un, de faire du quotidien, m'intéresse moins. Là,
de mettre en place, par exemple, de se dire dans... c'est pas passionnant, soit le crédit bail, mais de se dire, je me rends compte que, ben, en Pologne, c'est comme ça, qu'en Belgique, c'est comme ça. Donc, j'apprends des choses. Enfin, voilà. J'apprends des choses à chaque fois.
Laïcité dans une organisation qui a une structure tout à fait amorphe, non hiérarchique, avec des gros problèmes financiers. J'ai appris tout à l'heure qu'on avait une facture d'électricité démente. Alors que manifestement, il y a un problème, peut-être cette tireuse à bière qui est branchée depuis 6 mois. Et qui, donc personne ne comprend d'où vient la consommation électrique. Et on aurait besoin d'un gros contrôle de gestion. Pardon ?
Il y a une hausse du prix.
C'est possible aussi.
10% de prix hausse, ouais.
Mais après, ça dépend effectivement de votre contrat, et puis bah, ça dépend de ce qui reste branché, effectivement.
Oui, non, mais ce qui est, j'insiste sur le fait qu'ici, on a une organisation sous-optimale, hein, on en a discuté, qu'on revendique jusqu'à un certain point. Après, il y a des aspects un peu gênants, c'est que ouais, il y en a des dettes, on a des factures énormes, donc il y a du gaspillage, en fait, il y a des choses qui ne sont pas optimales, en fait, dans cette organisation. Pas mal de choses qu'on pourrait qualifier de gaspillage, mais enfin, je parle sous le contrôle des autres personnes qui fréquentent ce lieu. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire ? Enfin, j'essaye de rejoindre ta question. Qu'est-ce que ça voudrait dire de penser une autre forme de gestion adaptée à des lieux complètement atypiques et complètement bizarres qui ne respectent pas les normes
Après, moi, si je dis ça, mais après, je ne connais pas l'organisation, c'est un peu de se dire, de comprendre bah, quels sont, je dirais, ce qu'on appelle, dans mon jargon, les coûts fixes, c'est-à-dire, vous avez, je ne sais pas, un loyer, effectivement, de l'électricité, du machin, c'est de se dire, voilà, il y a ça qui tombe structurellement, et de se dire en face, quels sont les modes de financement que je vais avoir, quoi.
On en discutera en privé.
Et effectivement, peut-être se dire, est-ce qu'il y a du gaspillage ? Est-ce que les gens, partent, ils laissent tout allumé ?
Oui,
j'en sais rien,
moi. Ce que je veux dire, c'est que ce gaspillage a une certaine productivité...
De convivialité, du lieu, de créativité, tout à fait.
Une productivité inattendue. Et que la recherche de l'optimalité est souvent, d'ailleurs, on en a déjà discuté, une source de fragilité. Ouais. Et par ailleurs... On ignore toutes sortes de choses, on simplifie, on réduit à des bilans comptables, des choses qui sont avant tout des rapports humains.
Voilà.
Et... C'est le moment de demander si tout le monde a bien adhéré.
Voilà. Voilà, une source de financement. Donc,
Ah non, on ne se finance pas.
Les gens qui sont présents sont...
Oui, mais je suis désolé, on ne se finance pas avec les adhésions ici. Les adhésions, elles sont... C'est peut-être un problème. C'est peut-être un problème.
Mais effectivement, ce côté-là fait que du coup, dans les entreprises, et alors que c'est un discours du management de dire faut libérer la créativité et tout, mais donc pour libérer, ben, on ne peut pas du coup cadencer les gens, on ne peut pas les borner à une tâche parce qu'on est encore beaucoup dans la spécialisation. Moi, ce que j'appréciais, par exemple, dans cette boîte américaine, c'est qu'on faisait beaucoup d'ateliers où on mettait ensemble des fonctions très différentes et c'était des discussions, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas... par exemple, là, dans l'entreprise où je suis, j'ai essayé de le faire, il n'y a personne qui parlait. Je veux dire, je n'ai jamais réussi à attirer quoi que ce soit des gens et je leur demandais leur avis. Ce n'est pas dans leur culture. Mais effectivement, de prendre des temps à se dire... on discute tous ensemble et avec des fonctions complètement différentes sur qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui fait sens. Moi, j'estime que ça apporte beaucoup à l'entreprise. Mais ce n'est pas forcément hyper valorisé. Par exemple, moi, là, dans la mission où je suis, on avait deux stagiaires qui sont arrivés. J'ai dit, je vais leur faire une présentation générale. Pas juste de mon équipe, mais de la trésorerie en général. Et du coup, j'ai une collègue qui m'a dit, tiens, j'ai des gens qu'on vient d'embaucher, est-ce qu'ils peuvent venir ? J'ai dit oui, donc on s'est retrouvés une petite dizaine. Et en fait, les gens qui venaient d'être embauchés, donc ça faisait quelques semaines, ils ont dit, bah, en fait, ça aurait été bien qu'on ait ça le premier jour, parce qu'après, ils vont rencontrer des gens dans chaque service qui leur expliquent de façon très pointue ce qu'ils font, mais ils n'ont personne qui leur fait la connexion entre tous les services et pourquoi chacun, c'est important qu'on travaille tous ensemble, parce que chacun est en silo. Et effectivement, bah oui, moi, ça m'a pris des heures à le préparer, ça m'a pris une heure à le faire avec eux. C'est du temps qui peut être considéré comme pas productif. Parce que moi, ça n'a rien apporté à ma mission, hein, en soi. Mais moi, j'estime que c'est important pour les gens qui comprennent bien dans quelle structure ils opèrent. Mais oui, d'où le... Mais je dois dire qu'en finance, il n'y a pas beaucoup de gens qui partagent mon point de vue. C'est pas forcément une majorité. Mais Et donc, d'être aussi, de faire ces missions me donne plus de liberté aussi à faire ça.
Est-ce que vous avez des questions là?
T'arrives à avoir des horaires à peu près normaux, en fait, justement, c'est quand tu veux intégrer le contexte de chaque nouvelle entreprise.
Les premières...
Mettre en place éventuellement des actions qu'on va te demander de faire. Alors, les en plus tu fais des formations, est-ce que tu arrives à...
Non, les premières 6-8 semaines, c'est de l'intensif. Ouais. Là, ce que j'arrive à faire, mais en fait, c'est un peu... Enfin bon, je fais quand même 10 heures par jour. Hein. Mais c'est qu'à un moment, je me dis, je ne rentre pas chez moi après 20 heures. Donc quoi qu'il arrive... Et en fait, c'est à soi de l'imposer, parce que sinon, en entreprise... Mais ce qui fait que, par exemple, la mission, on m'a donné, donc j'avais deux choses et un projet, et normalement j'avais jusqu'à fin septembre, ça ne sera pas fini fin septembre. Alors ce que certains vont me dire, bah écoute, c'est à ton avantage, parce que comme ça tu vas te rester plus longtemps. Mais après, bah, il faut. Mais c'est vrai qu'avant j'avais tendance à me dire, on m'a donné 6 mois et je vais être. Mais déjà parce que même physiquement, hein, j'y arrive plus. Et je pense qu'aussi, j'ai trouvé un autre équilibre. Donc maintenant, j'arrive à un peu plus à manager ça.
Et avec la photo, tu réussis à publier un livre où... J'imaginais, t'as jamais essayé de... faire de la photo ta profession
ou... Non, après, moi, par exemple, quand j'ai mon dernier projet, j'ai auto-publié un livre. J'ai aussi cofondé un collectif, en fait, où on a fait plusieurs... donc, on avait fait, en 2015, toute une série de fanzines. C'était sur le thème de la ville. On a eu un autre projet qui était sur le thème de l'île et d'insularité, donc c'est pas vraiment un livre, mais on a publié et on participe à des foires où on va vendre nos publications. Donc c'est vrai que moi, mes projets photos, même personnels ou avec le collectif, souvent prennent la forme de livres et qu'on va essayer de vendre donc dans des librairies photos ou dans...
C'est les 6, 3, 4 ?
Pardon ?
Le collectif s'appelle...
Oui, 6-4-3.
Ici, j'en profite pour faire une page de publicité. Le 18 décembre, il y a une réunion de producteurs, de fanzines, de micro-éditions, de trucs comme ça. C'est bien ça, Julia ? Ça porte un nom, cet événement ? En tout cas, on aime beaucoup les gens qui publient des choses qui relèvent du suicide commercial.
Oui, parce qu'il n'en gagne pas sa vie avec. Au mieux, on couvre nos coups.
On a donné un nom à cette journée du 10 décembre. Marché de Noël.
Non, un truc comme ça.
Un truc comme ça. Marché de Noël gratuit.
Je vois, l'année dernière, j'ai vendu 2 photos, j'ai fait une expo. Normalement, on est censé avoir une petite rémunération quand on expose, donc j'ai eu 300 euros. Enfin voilà, quoi, c'est ça mes revenus.
Tu as mis ça sur ta déclaration d'impôt.
Et j'ai mis ça sur ma déclaration d'impôt. Dans la case, enfin j'espère avoir trouvé la bonne case parce qu'il y a tellement de...
Ça va te valoir une
changer de tranche.
Ah non, mais beaucoup de bureaucratie atroce.
Oui, ah ben là, je dois dire, en plus, j'ai eu différents statuts. Hein. J'ai fait du portage salarial, j'étais auto-entrepreneur, et donc ma déclaration d'impôt est assez fun.
On passe au mode informel. Non, il y a encore une question formelle.
Est-ce que dans le management de transition, ça valorisait le fait que finalement tu apportes ton regard extérieur, ce qui est enrichissant, hein, je pense, dans toute activité, mais qui prend un peu de temps parce que justement tu vas devoir intégrer tout le contexte
particulier
à chaque entreprise.
Oui, l'idée quand même, les boîtes, quand même valorisent le fait qu'on arrive avec un autre regard.
Elles ont besoin même de ce regard extérieur.
Elles s'en rendent compte, en fait, c'est ça.
Oui, elles se rendent quand même compte. Après...
Donc c'est une nouvelle tendance de ce type de management
Bah après, sinon, ils font appel à des consultants. Hein. Ils font souvent ça pour avoir justement un regard extérieur. Sinon, c'est, traditionnellement, c'était les consultants. Parce qu'un manager de transition par rapport à un consultant, c'est qu'on fait la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'on peut avoir une phase d'audit, proposer des plans d'action, mais on reste pour mettre en œuvre. Il y a un côté très opérationnel, en fait. Il faut être opérationnel.
On va voir les photos avant de...
Bon, en tout cas, moi, j'ai préparé à manger. Je vais amener donc une sorte de... Je ne sais pas le nom de ce plat. Il y a du riz avec des légumes de la MAP et deux courgettes de mon jardin. Et donc, effectivement, le temps que j'amène ça, vous pouvez faire un petit tour là-haut. C'est... Il y a à manger pour tout le monde est bienvenu.
Ok, ça, dans le jardin, manger, oui.